Bonjour. Ne paniquez pas. Nous avons simplement piraté votre podcast hebdomadaire afin de pouvoir propager la vérité. Le contenu audio que vous vous apprêtez à écouter aveuglément vous ment. Nous sommes la Team Plasma et nous cherchons avant tout la libération des Pokémon. N'écoutez pas leur propagande capitaliste. Il est temps dès à présent de stopper l'exploitation des Pokémon et de libérer ces pauvres petites créatures du joug de leur abominable dresseur. Rejoignez nos rangs pour mettre fin tous ensemble à cette servitude moderne. Vous deviendrez pionniers d'un nouveau monde où humains et Pokémon cohabiteront ensemble. Où plus jamais un adorable petit rat jaune ne sera obligé de passer sa vie dans une boule rouge. Gloire à l'amitié entre humains et Pokémon. Gloire à Gétis, notre chef, à tous, notre seigneur. Stoppez ce podcast, idiot, qui n'est que tissu de mensonges, et démarquez-vous du reste de l'humanité. Relâchez toutes vos créatures de Pokémon Go. Relâchez vos créatures de votre Switch. Cassez vos téléphones portables. Arrachez vos vêtements. Et rejoignez la seule, l'unique, la vraie Team Plasma.
Salut à tous, ici Zeni pour le 11e épisode du Poké Freak Show. Dans les deux épisodes précédents, et oui, le dernier épisode remonte à il y a un mois, mais à culpa, nous étions partis sur une analyse poussée des versions Pokémon Noir et Blanc, les deux opus sortis en 2011. Deux versions matures pour une telle licence qui cherchait à nous questionner sur les concepts d'idéal et de réalité, à travers un scénario et un univers tourné autour de cette dualité. Et bien que dans les deux derniers épisodes, je vous ai montré que les deux familles qui, à mon sens, représentent le mieux ces deux concepts sont d'une part les Sœurs et Netram qui, de par leur thématique autour des croyances extraterrestres, représentaient le mieux l'idéal, et d'autre part Mias Miasm et Mias Max qui nous rattachaient violemment à notre réalité, aussi repoussante soit-elle, ce qui marque le mieux tout ça dans les deux versions reste tout de même, au final, le scénario du jeu. Nous avons déjà parlé des trois dragons légendaires de ce jeu, à savoir Reshiram, Zekrom et Kyurem, représentant respectivement la réalité, l'idéal et la frontière entre les deux. Le premier est blanc et le second noir, formant ainsi parfaitement le yin et le yang, la dualité parfaite. Au passage, histoire de parler un peu d'origine, Reshiram et Zekrom pourraient venir de divinité zoroastrite, une religion iranienne. Mais ils possèdent également une autre inspiration, cette fois judéo-chrétienne, Caïn et Abel. Comme ces deux frères, ils sont les fils d'une même entité puisque ce sont les vestiges d'un dragon ancestral qui a été séparé. Et de cette séparation et de leur combat acharné est née la région d'Unis, telle qu'on la connaît, un peu à la star du bouclier et de l'épée qui ont créé le Japon par leur impact dans la culture shintoïste. Mais comme je l'ai dit, l'inspiration principale de ces deux dragons reste le yin et le yang. L'omniprésence abusée dans les jeux de ce symbole taoïste nous fait comprendre une chose, selon Game Freak, l'idéal et la réalité ne sont pas opposés, mais bel et bien complémentaires. Ça veut dire que l'un n'est pas le contraire de l'autre, mais que ces deux ensembles font partie d'un même tout, qui pourrait être genre la vie je suppose, mais ne se croisent que à travers une frontière. Cette frontière qui est l'un et l'autre, sans les être à la fois. Et cette frontière ici, c'est Kyurem. Dans la religion taoïste, cette frontière a un nom, c'est le Wuji, l'absence du yin et du yang, aussi nommé comme sommet du néant. Le néant, ça fait penser au chiffre 0, 0, 0 absolu. 0 absolu fait penser à la glace, Kyurem est de type glace, voilà, la boucle est bouclée. Mais ce Wuji désigne aussi le mouvement perpétuel, quelque chose qui est sa propre source et sa propre fin. En mathématiques, on appellerait ça un élément absorbant. Si vous multipliez quelque chose par 0, ça donne toujours 0. Et à l'inverse, 0 est le résultat de la multiplication d'un nombre à 0. Et bien le Wuji, c'est à peu près ça. Si tu le fusionnes avec autre chose, il retrouve sa forme originelle. Dans Pokémon, on a à peu près ça. En effet, dans Pokémon Noir 2 et Blanc 2, il y a le concept de fusion chez les légendaires. Kyurem peut fusionner avec Reshiram et Zekrom pour donner Kyurem blanc et Kyurem noir. Ce sont des Kyurem plus puissants avec des attaques signatures de Reshiram et Zekrom, mais des Kyurem quand même. Donc cette loi est plus ou moins respectée, on va dire. Mais il ne fait aucun doute que les concepts de fusion dans ces deux versions pourraient tirer son origine de cette particularité mathématique. Déjà parce qu'au fond, bah, on peut dire que Kyurem absorbe les deux autres dragons. Tout ceci est intéressant, je trouve, et mérite une plus longue analyse. Mais vous vous en doutez, aujourd'hui nous allons plutôt entreprendre le même travail que dans les deux épisodes précédents, à savoir, trouver un Pokémon autre que Kyurem qui pourrait tout aussi bien représenter ce concept de Ouji. Alors là, le travail serait d'autant plus compliqué car il ne suffit pas de juste trouver un Pokémon qui correspond à une description vague de frontières, mais plutôt un Pokémon qui répond parfaitement à cette propriété mathématique qui est, si on l'associe à l'un de ces deux concepts, il doit toujours être pareil. En bref, ici, ça doit être un Pokémon crédible en tant que Pokémon de l'idéal et crédible en tant que Pokémon de la réalité si on le regarde via le prisme de l'un ou de l'autre. Et pas un Pokémon qui est à la fois idéal et réalité, mais vraiment qui est l'un ou l'autre. Vous comprenez un peu l'idée ? Oui ? Non ? Bon bah vous finirez bien par comprendre j'imagine. Dans tous les cas, attrapons notre sac à dos et allons tous ensemble en voyage à Unis pour retrouver ce fameux Pokémon Ouji. Nous voilà donc à Unis et plus précisément au sud-est, dans une bourgade appelée Arabelle. Nous avons posé nos valises à Renoué, la ville de départ des dresseurs et où le professeur Catelliria distribue les trois starters du jeu, Vipellière, Grucui et Moustillon. Un serpent, un cochon et une loutre. Bon, le Pokémon que nous cherchons ne semble pas être parmi eux, donc nous sommes partis au nord, vers la route 1. Ici, à part des ratentifs et des ponchos, on n'a pas trouvé grand-chose. Ah si, il y a aussi cette espèce de lapin-vache rose appelé Norméoui. Mais nous parlerons de lui un autre jour. Et donc, en continuant notre parcours, nous nous sommes retrouvés à Arabelle. Un centre Pokémon, des maisons, une entrée, une sortie, et voilà. Ah si, on peut modifier la musique de la ville à sa guise, et ça c'est assez rigolo. Mais à part ça, Arabelle n'est pas si différent des autres villes de la région. Et encore, on n'a même pas d'arène. Il n'y a pas de quoi s'attarder dans la ville, quoi. C'est en tout cas ce que nous pensions lorsque nous avons voulu franchir les portes de la ville pour aller sur la route 2. Mais nous nous sommes fait arrêter par un groupe d'individus pour le moins étranges. Des gardes en tenue de croisée brandissant un fanion qui fait beaucoup penser au chrisme, un symbole chrétien surtout utilisé à Constantinople. Mais plus que leurs attributs, c'est leur discours qui est curieux. En gros, ce groupe qui se nommerait la Team Plasma parlerait de libérer les Pokémon de l'emprise des dresseurs, qu'ils devraient vivre en harmonie avec des humains et ne plus les servir. Et c'est plutôt cool en vrai. Tellement cool que cette idée a été utilisée dans la promotion des jeux Noir et Blanc, un jeu où nos adversaires sont des individus qui se battent contre la société de l'univers du jeu et au nom des valeurs objectivement bien. Ça remet totalement en question notre sens critique, genre pourquoi les affronter alors qu'ils ont au fond raison ? Pourquoi devoir suivre un scénario qui nous oblige à nous confronter à ce qui nous semble bien ? C'est assez intéressant comme mise en scène, c'est limite même une autocritique de la part de Game Freak vis-à-vis de leur jeu. En effet, l'une des principales remarques contre Pokémon est sa comparaison avec des combats de chiens, des activités malsaines et pas du tout bon pour le droit animal, et on retrouve beaucoup de cet aspect dans le trailer du film Détective Pikachu. Donc est-ce que, avec la Team Plasma, Game Freak fait preuve d'une remise en question de ses propres principes, à travers un groupe militant avec des engagements plus que crédibles ? Eh bien, pas du tout. En vrai, oubliez tout ce que je viens de dire parce que, bon, vous en doutez sans doute, la Team Plasma n'est absolument pas aussi blanche que ce qu'elle prétend. En vrai, elle est carrément noire. Lors de notre première rencontre avec la Team Plasma à Arabelle, on rencontre Gétis, un personnage imposant aux cheveux verts avec une tenue de gourou. C'est lui qui prend la parole et c'est lui qui énonce ce beau discours sur la libération des Pokémon et sur la maltraitance qu'ils subissent. Dans son discours, ça parle grosso modo de paix intérieure, de devoir, de bousculer la loi tacite, et bien sûr de mensonges et de vérités vraies. Là déjà, on peut se dire que ça pue un peu, genre ça utilise peut-être beaucoup trop l'éthique de langage des théories du complot quand même. Effectivement, notre deuxième interaction nous fait comprendre que la Team Plasma n'est pas du tout aussi clean qu'elle se prétend être. Déjà, ils envoient des Pokémon combattre entre eux, ce qui est en soi une belle contradiction avec tous ces beaux discours quand même. De plus, on les prend en flagrant délit de vol de Pokémon, et surtout, on voit deux sbires maltraiter un Muna, Pokémon rose avec des fleurs, devant nos yeux. Donc là, vraiment, ils perdent toute notre confiance. Et la fin nous donne raison lorsque l'on découvre que le plan de Gétis était de convaincre le monde de libérer leurs Pokémon pour pouvoir être l'unique possesseur de créatures de poche de la région. Et bien sûr, devenir ensuite l'empereur absolu, domination du mal, maître du monde, etc., etc. Mais même si finalement on retrouve un schéma classique de méchant qui veut tout dominer, leur moyen d'y arriver est tout de même très intéressante, et même mature. Comme je l'ai dit, la proposition du plan initial peut sembler alléchante. La libération des Pokémon ? Atteindre une égalité totale entre les deux camps ? Pourquoi pas ? Notre sens critique est totalement remis en question et permet au public de voir sa notion du bien et du mal chamboulée. Et je dois avouer que jamais jusque-là une team n'avait réussi même pendant quelques instants, à nous donner envie de les rejoindre. À moins que votre kiff ait d'émerger toute forme de continent sur Terre afin que l'océan domine, mais là je peux plus grand chose pour vous. L'autre particularité intéressante de la Team Plasma est liée à ses méthodes et son style. Je l'ai dit, ils empruntent beaucoup au christianisme. Tenue de croisée, utilisation du chrisme, et même leur façon d'aborder les gens sur la place publique fait penser à des méthodes chrétiennes. Mais plus que des signes chrétiens, ce sont aussi et surtout des signes de conquête et de prosélytisme de cette religion qui sont utilisés. Le chrisme a été l'étendard de la christianisation orientale, et les croisés, bah c'est ceux qui ont fait des croisades quoi. Bref, ça paraît évident, mais tous ces signes nous font bien comprendre que, contrairement aux autres teams de méchants des différents jeux, la Team Plasma n'est pas une simple organisation criminelle, mais carrément une secte. C'est assez osé d'introduire une telle thématique dans un jeu destiné aux enfants. Mais oui, la Team Plasma est bien une secte, au même titre que la Scientologie par exemple. Au début, ils nous font croire qu'il faut les rejoindre au nom du bien commun, ici la libération des Pokémon. C'est une cause qui semble effectivement juste, et comme je l'ai dit plus tôt, on a envie de les rejoindre les yeux fermés. Et c'est normal, sauf que derrière, ils cherchent surtout à nous manipuler. La Scientologie et la plupart des sectes nous manipulent à travers de belles arnaques, tandis que la Team Plasma nous manipule pour qu'on relâche nos Pokémon, afin que nous soyons sans défense. C'est plutôt malin et cette thématique joue beaucoup sur la qualité de cette version. Et enfin, pourquoi la Team Plasma est la team la plus crédible de tous les jeux? Tout simplement parce que Getis est le seul leader d'une team qui essaie de nous tuer. Non, j'ai pas dit qu'il essaie de battre tous nos Pokémon, mais vraiment Getis cherche à nous assassiner à la fin. Cette version a vraiment franchi une grosse étape dans l'univers de Pokémon rien que pour ça. Étape qui d'ailleurs ne risque pas d'être franchie à nouveau. Bref, avec tout ça, on peut se dire que la Team Plasma se démarque totalement des autres versions, et surtout, leur mode opératoire est vraiment bien pensé. Et peut-être que ça aurait pu marcher dans un univers parallèle, et la région d'Unis, voire le monde, aurait été sous la domination du duo Getis. Sauf qu'en fait, cette team a commis une grave erreur dans leur plan. Une erreur totalement insoupçonnée. Celle d'avoir sous-estimé un gamin de renouée, dresseur de Pokémon que depuis quelques heures, qui a réussi à venir à bout de tous les sbires du groupe à l'aide de son petit porcinet? Non, pas du tout. Dans son plan rudement bien ficelé, Getis a fait une erreur. Et cette erreur pourrait se résumer à la 14e lettre de l'alphabet. Une fois que Getis a fini son speech à Arabelle, on se fait par la suite aborder par un étrange individu également aux cheveux verts. Un jeune homme curieux, précipité et totalement atypique, qui nous prétend comprendre ce que dit notre Pokémon. Et après un rapide combat face à son chakripan, il nous parle encore une fois de libération de Pokémon avant de s'en aller. Qui est donc cet individu? Vous le retrouverez plus tard à Maillard et encore après à Méanville. A chaque fois, il lance un combat et vous pourrez noter qu'il ne possède jamais la même équipe, comme s'il lâchait tous ses Pokémon après le combat et qu'il capturait vite fait ceux dans la zone. Là déjà, on peut se dire que c'est quelqu'un qui a le mérite d'être plus cohérent avec le discours de la Team Plasma, au moins. Et du coup, qui est ce personnage aux cheveux verts et pourquoi nous parle-t-il autant d'idéal ou de réalité en fonction de votre version? Eh bien, il s'agit de Natural Harmonia Gropius, aussi connu sous le nom de N. Et grosso modo, il s'agit ni plus ni moins du roi de la Team Plasma. En tout cas, il nous est présenté ainsi. Et ça va même plus loin, dans l'animation du début, on le voit siégé à la droite de Getis, dont il serait le fils. Et il est présenté comme une personne attentionnée et prêcheuse d'une bonne parole. Ça va même plus loin, c'est le seul de la Team Plasma qui croit vraiment au plan de libération des Pokémon. Du coup, on pourrait alors penser que, plus qu'un simple dirigeant, il est le prophète de la religion de la Team Plasma. En bref, il est l'alter ego de Jésus dans cet univers, là où Getis s'estime être tout simplement Dieu. Quand on sait que N a été élevé par Getis, ça fait sens. Ce dernier le dit lui-même, c'est un outil, et il a été élevé pour convaincre les gens de rejoindre leur ordre. Il fait du prosélytisme malgré lui, et sa pureté n'est qu'un gadget. Et au moment où il commence à réfléchir de lui-même, il se fait traiter de monstre, et on voit qu'il est au cœur d'une relation bien passive-agressive avec Getis. Ça rend cette version encore plus malsaine, et à la fin, les plans de Getis s'effondrent lorsque N réalise qu'il était cet outil et qu'il était malgré lui au cœur de cette conspiration, entraînant ainsi un schisme dans la Team Plasma, une partie encore influencée par Getis, et l'autre décidant de suivre les valeurs sincères de N. Tout est bien qui finit bien. Bref, tout ça est intéressant. N a été élevé toute sa vie pour être un prophète. Depuis son enfance, on lui a donné ce rôle pour qu'il puisse accomplir ce but. Ceci étant, même au-delà de ça, il y a beaucoup de choses autour de ce personnage qui m'intriguent. Des petits détails assez révélateurs qui nous font nous poser des questions sur la nature même de ce personnage haut en couleur. Donc je repose la question, qui est Natural Harmonia Gropius ? Un jeune homme aux cheveux verts avec une casquette, curieux, excité et possédant une empathie avec les Pokémon tellement forte qu'il peut communiquer avec eux. Alors déjà c'est pas mal tout ça. Ce n'est pas le genre de personnage qu'on a l'habitude de voir dans les œuvres de fiction. Et pourtant on n'en est pas encore à bout, il existe en N une myriade d'éléments qui peuvent nous faire nous poser des questions sur sa vraie identité. Voici quelques éléments en vrac. Déjà, il est intéressant de voir qu'il possède toujours une équipe différente à chaque fois qu'on l'affronte, et surtout son équipe est constituée exclusivement de Pokémon de la zone dans laquelle on le rencontre. Il possède un Chakripant la première fois qu'on l'affronte, on le voit avec un Poichijon, un Charpentier et un Triton de la seconde fois, etc. Il se démarque totalement des autres dresseurs, il ne les capture pas et ne les force pas à le suivre, mais visiblement leur demande de l'aide, tout simplement. Cela n'empêche pas qu'il les laisse finir KO à la fin, mais bon, c'est déjà une belle amélioration. Le second détail est lié à son langage. C'est simple, il parle vite, super vite. Et c'est illustré par le fait que ses lignes de dialogue défilent plus vite que celles du joueur et de tous les autres personnages du jeu. Il hésite également beaucoup, on a plein de points de suspension dans ses dialogues. On nous explique qu'il a appris à parler grâce au vieux sage de la Team Plasma, mais ses tics de langage se remarquent très vite. On lui attribue aussi des sautes d'humeur et une personnalité assez équivoque. Toujours au niveau de sa personnalité, il faut quand même avouer qu'il stalk beaucoup le joueur. On le retrouve presque à tous les coins de rue pour suivre votre progression. Là, on pourrait penser qu'il est là juste pour vous surveiller. Mais à ce niveau, ça fait quand même pas mal penser qu'il veut faire de vous, au pire, un rival, au mieux un ami. Ce qui est assez révélateur d'un certain manque d'affection de sa part. Et quand on voit comment Gettys l'a élevé, à savoir littéralement au fin fond d'une grotte, on ne peut que comprendre. Un autre truc assez marrant autour de N, c'est son lien très étroit avec l'univers des mathématiques. Rien que son nom, Natural Harmonia Gropius, en est une référence. Gropius pourrait faire référence au nom d'un architecte, Walter Gropius, principal acteur d'un courant architectural allemand appelé le Bauhaus, mouvement lié aux mathématiques. Harmonius, en plus de faire penser à l'harmonie, belle valeur de N, pourrait faire référence aux fonctions harmoniques, un autre truc bien connu en mathématiques. Ne me demandez pas de vous expliquer ce qu'est une fonction harmonique, s'il vous plaît. Quant à Natural, en plus de faire penser à la nature, c'est une référence à ce qu'on appelle les nombres naturels, qui désignent les nombres entiers positifs, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, etc. D'ailleurs, cette catégorie de nombres est notée N, comme pour N. Mais plus que le nom, on retrouve encore d'autres liens. Par exemple, vous avez remarqué le cube qu'il tient à sa ceinture ? Il s'agit d'un Void Cube, une sorte de Rubik's Cube ne possédant pas de carré au milieu à chaque côté. C'est aussi une forme mathématique qui peut mener à l'éponge de Menger, qui est un solide fractal possédant des caractéristiques mathématiques intéressantes, comme le fait que c'est un solide ne possédant pas de poids. Je vous laisse checker éponge de Menger sur Google, vous comprendrez sans doute. D'ailleurs, ce cube devait avoir un rôle dans le scénario, mais c'est aujourd'hui réduit qu'à un élément du design de ce personnage. Enfin, le truc le plus rigolo est lié à son thème musical. En effet, si on numérote chaque note de musique, genre Do vaut 1, Ré vaut 2, etc., eh bien on se rend compte que son thème n'est que la succession en boucle des 8 premiers nombres premiers. Fascinant, non ? Et je suis sûr que si on creuse plus loin, si on analyse ses discours, ou si on check vraiment n'importe quel détail, on peut trouver d'autres caractéristiques mathématiques dedans. Et c'est marrant parce que je vous ai donné un autre élément mathématique au début de ce podcast. Est-ce un flash-forward de la révélation de la fin de cet épisode ? Peut-être. Enfin, il y a un autre élément intéressant dans tout ça, c'est son lien avec Zoroark, Pokémon de la 5ème génération, et un peu en quelque sorte la mascotte de noir et blanc comme l'a été Lucario dans la 4ème génération. En effet, vers la fin du jeu, chaque apparition de N est accompagnée de celle d'un Zoroark sauvage. Lors de sa dernière apparition dans le jeu, on en suivait même un qui nous amenait à la chambre de N, où on retrouvait des griffures partout. Ce qui peut lancer certaines théories intrigantes. Et puis avez-vous remarqué que nous n'avons jamais vu N et Zoroark dans la même pièce. Bon, avant de continuer, il serait de bon temps de vous introduire Zoroark. Donc, qui est donc le Pokémon numéro 571 ? Zoroark est donc un Pokémon de type ténèbres de la 5ème génération. Évolution de Zorua, il a l'apparence d'un renard bipède au pelage noir et rouge. Il est notamment le héros du 13ème film Pokémon, celui qui faisait la transition entre diamant et perle et noir et blanc. Bon, toutes ces informations n'ont pas de réelles importances, d'autant que c'est un Pokémon plutôt bien apprécié, donc qui n'a absolument pas sa place dans cet épisode. Donc pourquoi parlons-nous de lui ? Bien parce qu'il possède des capacités assez intéressantes. Il faut savoir que Zoroark est une référence assez assumée du Kitsune, un yokai japonais à l'apparence d'un renard. Outre le fait que ce sont des serviteurs du dieu shintoïste Inari, la divinité liée au riz, c'est une créature dont on peut trouver plusieurs représentations dans la culture populaire, que ce soit sa forme simple de renard, soit noire, soit blanche, ou dans sa forme plus évoluée qu'on appelle Kyubi no Kitsune, à savoir le renard à 9 queues. Et là, plein d'œuvres dans la culture populaire doivent vous passer en tête, que ce soit Naruto, Bleach, Okami, Digimon, et même, bah, tout simplement ton Pokémon, puisque Fenar vient directement du Kyubi no Kitsune. Mais si on parle de tout ça, c'est parce que les Kitsune ont une caractéristique dont Zoroark a hérité, à savoir ses pouvoirs de change-forme. En gros, les Kitsune peuvent prendre forme humaine, et parfois prendre la forme d'une jeune fille. D'ailleurs, cette croyance vient du fait que certaines femmes au Japon ont un visage fin et allongé qui fait penser à un renard. Mais bref, on s'égare. Donc le Kitsune peut changer de forme. Et Zoroark aussi. Zoroark, mais aussi Zorua, peuvent changer de forme. C'est même le sujet de leur unique talent, Illusion, où ils apparaissent en combat avec des traits d'un autre Pokémon de votre équipe, afin de duper l'adversaire, et reprennent leur forme de renard noir lorsqu'ils subissent une attaque. Le Pokédex aussi parle de cette capacité. Pokémon noir, par exemple, nous dit qu'il protège les siens en prenant l'apparence de ses ennemis. Et à un moment, on rencontre même un Zoroark, qui nous permet de comprendre que ça va au-delà de ça. Il peut prendre forme humaine, et dans cette forme-ci, il peut parler un langage humain. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Non pas que Zoroark est le Pokémon Wooji que l'on cherche depuis le début de l'épisode, non. C'est pas possible, car bien qu'il puisse falsifier la réalité pour la transformer en idéal, il ne peut pas faire l'inverse non plus. Enfin, ça n'a aucun sens. Non, en revanche, il y a des choses intéressantes à retenir dans tout ça, comme tout simplement son lien avec N. Et là, on en vient à l'une des principales théories autour de notre bon PNJ. Est-ce que N serait pas un Zoroark élevé comme un humain ? Beaucoup d'éléments vont dans ce sens, déjà le fait qu'un Zoroark assiste à chaque apparition du personnage, ou aussi son pouvoir empathique avec les autres Pokémon qui font bien comprendre qu'il y a l'Empereur sous roche. Il lui ressemble également physiquement puisque les deux Pokémon possèdent une queue de cheval et ont tous les deux des yeux bleus. Le fait également que Gettys le traite régulièrement de monstre et prétend qu'il n'est pas humain peut aussi faire penser à tout ça, genre que lui connaît bien la vérité et le rabaisse à sa condition de Pokémon. De plus, pour les plans de Gettys, il est tout de même intéressant de se prendre à ses côtés un maître de l'illusion pour pouvoir encore mieux duper les humains. Bref, tous ces éléments peuvent faire penser à cette théorie, et je trouve ça franchement cool que Game Freak n'ait jamais validé ou démenti cette rumeur. Ça laisse la possibilité à toutes les rêveries, sauf que... Eh bien, autant ces éléments peuvent faire imaginer tout ça, autant tous ces arguments peuvent être expliqués rationnellement. Par exemple, le Zoroark qu'on suit jusqu'à N, c'est peut-être celui qu'il possède et le renvoie dans sa Pokéball au moment où on pénètre dans sa chambre. Si Gettys le traite de monstre, c'est sans doute à cause de sa capacité à parler avec des Pokémon, attribut qu'il partage tout de même avec d'autres PNJ de la licence. Et puis surtout, si ceci était vrai, pourquoi Game Freak insiste autant avec les mathématiques ? Pourquoi il parle vite ? Pourquoi il est aussi curieux ? Et là, on en vient à d'autres théories que je souhaite mettre en avant. C'est que N est juste un personnage neuroatypique. Grosso modo, un personnage possédant un fonctionnement cérébral différent de la norme. C'est facile à dire de but en blanc, mais des éléments peuvent y faire penser. Déjà, le fait qu'il estime les Pokémon d'une manière différente du commun des mortels montre qu'il pense différemment des autres, et surtout de son père Gettys, qui n'y voit qu'un moyen de conquête, un peu comme tout le monde en fait. N, lui, identifie les Pokémon que comme des amis, et n'a aucune faculté à les voir autrement. D'ailleurs, son fameux pouvoir de communication avec les Pokémon pourrait juste être un pouvoir empathique bien plus fort que la moyenne, chose qu'on peut assimiler à un personnage hypersensible. Donc rien de vraiment surnaturel finalement. Pareil pour le fait qu'il parle vite, en fait il est atteint de logorrhée, assimilable à une personne hyperactive. Son attirance pour les maths et pour la logique en règle générale, c'est quelque chose de clairement trouvable chez une personne autiste, et le fait qu'il ne croit qu'en l'idéal ou la réalité dure comme fer joue beaucoup à ce diagnostic. Et j'ai même envie de dire que le fait que Gettys le traite de monstre est une autre preuve, hélas. Il l'a bien plongé dans une relation clairement passive-agressive, donc on n'est plus à ça près en fait, et on peut s'attendre à tout. En bref, N est un personnage différent de ce qu'on voit habituellement dans les œuvres culturelles, c'est un fait. C'est quelqu'un de neuroatypique finalement. Alors d'une part, on ne va pas partir sur un diagnostic précis, car en fait je suis absolument pas expert, et d'autre part, j'espère que personne ne croit que je suis en train d'insulter N en le traitant d'autiste. Au contraire, si cette théorie est vraie, bah ça serait super cool. Tout simplement parce que malgré tout, N est un personnage génial, classe, intéressant, intelligent et surtout extrêmement curieux. C'est un individu qui rêve de pouvoir vivre en harmonie avec les Pokémon et qui met tout en œuvre pour que cet idéal devienne une réalité. Cette réalité qui est flouée par Gétis et la Team Plasma, qui ne le permet que d'en rêver. Et à la fin, grâce à son alliance avec Zekrom ou Reshiram, et avec votre avatar, il atteint ce but. Il a la preuve que humains et Pokémon peuvent vivre ensemble, et décide par lui-même de suivre cette voie en quittant ce qui était nocif autour de lui, pour suivre son propre chemin. Dans Noir et Blanc, on a juste un jeune homme hésitant qui se floue dans ses propres objectifs, et dans Noir 2 et Blanc 2, on retrouve un dirigeant charismatique de la bonne partie de la Team Plasma, qui connaît parfaitement le chemin qu'il doit suivre et sait comment agir à la moindre situation, tout en réussissant à ne plus jamais se faire avoir. C'est un personnage attachant, toujours à la recherche de nouvelles expériences sociales, dont l'évolution au fil des deux jeux est sans doute l'une des évolutions les plus palpitantes de tout l'univers vidéoludique. Et qu'est-ce que ça change le fait qu'il soit neuroatypique ? Absolument rien en fait, juste une représentation positive pour toutes les personnes neuroatypiques jouant à Pokémon, à des années-lumière de cette caricature sur pattes que représente Sheldon Cooper dans The Big Bang Theory. D'ailleurs, on a longtemps soupçonné Satoshi Tajiri, l'homme derrière la création de Pokémon, d'être Asperger. En effet, ses contacts avec la presse internationale a laissé planer cette idée. Et bien que cela ait été démenti, et d'ailleurs vous retrouverez en description un lien vers la vidéo de la chaîne YouTube Trans qui parle de ça si le sujet vous intéresse, je me dis qu'il n'y a qu'une personne neuroatypique pour imaginer un tel personnage. En tout cas, on peut clairement tracer un parallèle entre N et Tajiri, deux personnages qu'on peut soupçonner de posséder des neurodivergences, qui ont des caractéristiques qui vont dans ce sens, mais en vrai, bah, ça change rien, car au fond, ils ont prouvé que malgré tout, on peut tout de même faire des choses grandes, et que l'autisme, la bipolarité ou n'importe quelle autre forme de neurodivergence n'empêche pas une personne d'être quelqu'un de potentiellement génial. Donc pensez-y la prochaine fois que vous traiterez quelqu'un d'autiste ou de malade mental. Mais là, je crois qu'on s'est totalement écarté du sujet. Au départ, je devais vous parler du fameux Pokémon frontière entre l'idéal et la réalité, et j'ai même pas commencé à analyser un seul de ces Pokémon. Et là, on s'approche de la fin du podcast et j'ai même pas commencé. C'est quoi ce travail, en fait ? Pourquoi ce long écart sur un PNJ ? Eh bien, parce que, Pokémon ou pas, la principale représentation du concept de Wooji dans Pokémon Noir et Blanc, et même toute la pierre angulaire de toute cette dualité, eh bien évidemment, c'est N. Bien qu'il existe plein d'autres théories sur ce personnage mystérieux, je vous ai exposé les deux plus crédibles. Non parce qu'il y en a d'autres qui imaginent qu'il s'agit du descendant d'une longue lignée de rois ancestraux, ou encore que N serait un robot. Mais à travers ces deux théories, nous avons vu deux aspects possibles de la personnalité de N. Dans un premier cas, c'est un Pokémon, la théorie idéale, genre on adorerait y croire tant elle est alléchante. Et même si on peut débunker chaque point de cette théorie, il n'empêche que Game Freak en a fait un peu trop avec, à tel point qu'on peut se demander si c'est fait exprès. Et on peut clairement retrouver dedans les parallèles avec les théories du complot toutes très alléchantes dont j'ai parlé dans l'épisode sur les sorts et Netram. Et de l'autre, la théorie sur le fait qu'il soit neuroatypique et la théorie réaliste. Les divergences cérébrales existent, et même si de prime abord ça paraît moins sexy, elle a au moins la tendance d'être crédible. Mais que ce soit l'un ou l'autre, ça ne change rien car dans les deux cas, ça donne ce personnage haut en couleur, curieux, attachant et rempli de mystère. Et rien de tout ça ne le fait changer. Si on assimile N à de l'idéal, on a quoi ? N. Si on assimile N à de la réalité, on a quoi ? N. Que soit l'un ou l'autre, on a le même résultat, mais vu dans des prismes différents. Mais qui ne change rien du tout à toutes les qualités de ce personnage. Donc voilà, on l'a. Il est là, notre fameux élément absorbant, le réel théorème du jeu, la frontière naturelle entre l'idéal et la réalité. C'est l'élément absorbant. Comme s'il n'y avait pas assez de références mathématiques autour de lui. Donc au final, N est le Pokémon frontière entre l'idéal et la réalité, la pierre angulaire des jeux noirs et blancs, et tout ce qui permet de dire que, malgré tout ce que vous diront ses détracteurs, ces deux jeux possèdent de loin le meilleur scénario de la licence. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Merci d'avoir écouté cet épisode. Un épisode totalement différent de ce qui a été fait avant, puisqu'on n'a pas analysé à proprement parler un Pokémon, mais un aspect du scénario de Noir et Blanc. Car au final, ces trois épisodes ont servi à défendre ces deux jeux qui sont de loin les plus sous-estimés de la licence. J'espère que cette mini-série vous aura permis de changer votre avis à ce sujet et que vous me rejoindrez pour encourager Game Freak à proposer des scénarios aussi sombres et tourmentés que celui-ci. Dans tous les cas, quelques remerciements. Merci à Marino pour la petite intro du début de l'épisode et un grand merci à Gwen qui m'a soufflé l'idée de cet épisode sur N et qui m'a grandement aidé à écrire la partie sur les divergences psychologiques de ce personnage qu'on aimerait tellement revoir dans la licence. Bon, cette fois, vous n'aurez pas à attendre un mois pour le prochain épisode, il vous sera livré en bonne et due forme dans 15 jours comme d'habitude. Et ça sera l'enregistrement de l'épisode en live animé la semaine dernière à l'école multimédia. Une expérience riche pour ma part sur un Pokémon victime de critiques injustes qui mérite une seconde chance. Ceux qui étaient là, évitez de spoiler le sujet de l'épisode. Dans tous les cas, le Pokéfreak Show est un podcast produit par Radio Kawa, et n'oubliez pas de me soutenir, moi, en vous abonnant au podcast sur votre application préférée, ou soutenir Radio Kawa en passant sur notre Patreon, afin de financer le matériel et permettre de refaire d'autres week-ends en live. Dans tous les cas, je m'en vais vous faire poireauter pendant 15 jours. Ciao!
On dit souvent que tout était mieux avant. Qu'en pensez-vous, Papy Groublin ?
C'est vrai, c'est vrai. Tout était beaucoup mieux avant. À l'exception de la difficulté de l'accès à la musique japonaise.
Coucou, c'est Amo. Kaorin, c'est le podcast musical dédié à la culture visuelle japonaise. Générique et soundtrack d'anime, JRPG, visual novel, toutes les époques, tous les genres, que vous soyez otaku ou non. Kaorin, votre podcast musical d'1h30 sur la culture visuelle japonaise, c'est sur Radio Kawa.
Puis on n'avait pas de doujin and tiny zekai non plus.
Mais arrête, Pépé.
Quand vous découvrez un bon restaurant, vous en partagez l'adresse avec vos amis. Les podcasts, c'est pareil. Pour aider vos productions Radio Kawa préférées à se faire connaître, rendez-vous sur leur page iTunes Store et foncez les noter.
Et à mon avis, elle mérite 5 étoiles.
Plus nombreux vous serez à noter nos émissions, plus cela aura d'effet. Merci et bonne écoute.